inédit de la Grande Guerre.
40 épisodes collectés par les archives départementales de la Côte d'Or
et lus par leur directeur, Édouard Bouillet.
Épisode 20.
Contraste.
C'est le printemps. La nature s'éveille au milieu des décombres. Après-guerre, alors qu'il se trouve près de Baccarat en Lorraine, André Bitteau, dans ses mémoires intitulées « Souvenirs et réflexions », décrit les tombes individuelles et collectives de ceux qui ont été fauchés au printemps de leur vie.
La nature, maternellement et si douce en ces pays, avait soin de veiller jalousement sur ces pauvres restes qui lui étaient confiés. Elle recouvrait d'un tapis de verdure et de fleurs, des champs, tous ces petits monticules qui surgissaient un peu partout. Des képis, même des casques à pointe, surmontaient les croix. Quelques tiges desséchées témoignaient que des mains pieuses y avaient parfois déposé un bouquet. Pauvres victimes de la barbarie humaine, tombées en pleine jeunesse, en pleine possession de leurs moyens de survie. Mort peut-être seul, après une longue agonie, enterré sur place, avec comme linceul, et pas toujours peut-être, une simple toile de tente. Ils dorment là, de leur dernier sommeil, au milieu de cette nature si maternelle, donnant au paysage une nouvelle couleur et un aspect si favorable à la méditation. Peut-être sont-ils heureux de reposer dans ce cadre de paix, loin des embûches et des cruautés de leurs semblables encore vivants. Ce privilège ne leur a pas été accordé longtemps. La guerre finie, tous ont été rassemblés dans ces innombrables cimetières dits « nationaux » qui jalonnent l'ancien front de Dunkerque à Belfort.
À Verdun, le 1er juillet 1916, André Bitteau est frappé par un contraste étrange quelques heures avant d'emprunter le tunnel de Tavannes pour gagner les abords du terrible fort de Vaux.
La rosée du matin, cette rosée des prairies, s'obstinait là encore en ces lieux de mort, en s'accrochant comme des pleurs à quelques herbes encore vivantes. Une buée bleue qui, par son odeur et sa couleur, semblait sortir des cheminées de l'enfer, par paquets rampait en s'effilochant. Une odeur de poudre brûlée, d'acier surchauffé et de pierre pilée s'ajoutait aux émanations d'une pourriture qui traînait partout. Mais, dominant le tout, une haleine méphitique, l'odeur des cadavres en décomposition des premières lignes, se dégageant de cette terre pétrie de chair humaine, par vagues intermittentes, poussées par le vent, venait nous avertir que nos corps, eux aussi, étaient attendus là-haut pour y subir la même désagrégation chimique, le même sort de ceux qui empestaient l'air et nous rappelaient que, comme les camarades, nous allions nous aussi disparaître, rongés par les vers, en une lente pourriture. Nous envisagions tout cela, nous l'appréhendions même, le moral était vraiment bas. Mais, chose bizarre, un drôle de sentiment pouvait encore nous soutenir, soutien bien éphémère, car nous ne donnions pas cher de notre peau. C'était cette curiosité instinctive de voir, d'assister à un spectacle jamais vu. Et pourtant, on ne pouvait s'empêcher de penser que là, en ces lieux si vivants autrefois et maintenant agonisants, il y avait quelques années, des amoureux venaient cueillir le muguet, la fraise des bois et la noisette.
Même étrange contraste, pourtant au cœur de l'hiver, constaté par Pierre Lanvin, aspirant au 22e régiment d'infanterie, le 28 février 1916.
Reconnaissance d'une position d'attente avec quelques officiers du bataillon, presque une partie de plaisir. Bonheur de marcher dans la plaine, de respirer largement l'air brumeux. Plantations de fils de fer, boyaux zigzagants, villages en ruines. Mais beaucoup de vie et de mouvement dans les ruines et la dévastation. Charmantes petites églises romanes, à demi effondrées. Et des artilleurs chantent, en creusant des abris, sous les tombes fraîches d'un cimetière.